France Inter.
It's morning edition from NPR News.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Est.
Est-ce que Cuba est la vraie cible de Trump, la nouvelle cible de Trump? Est-ce que l'île, qui ne tient qu'à un fil économique depuis un bout de temps, va recevoir la fin des importations du pétrole comme du Venezuela, comme un coup de grâce? À moins que ça fait 60 ans que Cuba, sous embargo, vit asphyxié. On a envie de démêler tout ça avec notre invité, c'est dans un tout petit instant. Trump, encore lui, a inventé la doctrine Donro pour qualifier sa politique internationale. Mais la doctrine Macron, alors, est-ce qu'on sait la qualifier? Nous demanderons à Frédéric Seize, qui remet chaque soir le monde à l'endroit. Le reportage est à la Cannes ce soir, la Coupe d'Afrique des Nations. Savez-vous quelle est la nationalité non-africaine la mieux représentée dans les tribunes? Eh bien la France, bien sûr.
Jessica, je vis sur Paris et je suis venue pour supporter les léopards.
J'habite en France, je suis franco-malien. Et...
Je suis Elay depuis Paris pour supporter mon équipe, le Sénégal.
Un reportage de François Imfer Kataji à retrouver autour de 18h41. Sous les radars, Guillaume Oda a trouvé le Cambodge qui vient de livrer le roi de l'arnaque aux crypto à Pékin. Et puis dans la tech la première, il y a cette photo de Maduro, vous voyez laquelle? Lunettes noires sur les yeux, survêtement, dans l'avion qu'il envoie aux États-Unis. Mais est-ce que c'est une vraie photo ou une IA? Eh bien, il y a un doute et Stéphane Jourdain va vous le décrypter. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. On est parti.
It's amazing. This poor island took over Venezuela in some cases. One of the biggest problems Venezuelans have is they have to declare independence from Cuba.
La voix que vous entendez, c'est celle de Marco Rubio, c'était dimanche soir, et c'est incroyable, dit-il, que Cuba, cette île pauvre, ait pris le contrôle du Venezuela. L'un des plus gros problèmes, dit-il, des Vénézuéliens, c'est qu'ils doivent déclarer leur indépendance vis-à-vis de Cuba. Si je vivais à La Havane, et si je faisais partie de ce gouvernement, je serais très inquiet. Bonsoir Gaspard Estrada.
Bonsoir.
Politologue, membre de l'unité Sud Global à la London School of Economics, et c'est vrai que Cuba et le Venezuela, depuis Chavez, encore plus depuis Maduro, étaient dans une vraie entente bien comprise. Je te donne du pétrole, en échange tu me donnes des médecins, tu me donnes des infirmières, tu me donnes aussi de la sécurité. Ce sont des Cubains qui sont morts lors de l'attaque à Caracas ce week-end. Cet accord, est-ce qu'il s'écroule aussi vite qu'un château de cartes alors, là maintenant que la chose a changé ou pas?
C'est ce qu'il va falloir observer ces prochains jours. En effet, ces deux pays ont un accord très solide que vous avez déjà mentionné. Il est clair que les évolutions du régime vénézuélien poussent à un certain nombre de questionnements quant à la viabilité de la survie de Cuba. Il y a des facteurs qui poussent en faveur justement de la suspension de cet accord et donc de l'asphyxie, j'irais peut-être finale, de Cuba. Mais il y a aussi des facteurs qui jouent contre. Quels sont les facteurs qui jouent à faveur? C'est ce que vous avez mentionné, cette volonté de l'administration américaine et en particulier de Marco Rubio, qu'il ne faut pas oublier, et d'ascendance cubaine.
Sûr,
il a construit sa carrière politique en fonction de cette question.
Ses parents sont partis sous Batista, d'ailleurs, avant Castro. C'est
en
important 56, aussi.
Absolument. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que pour lui, c'est un agenda personnel qui n'existe pas dans le cas du Venezuela. Certes, sa base électorale est également composée d'anciens Vénézuéliens qui aujourd'hui habitent aux États-Unis. Néanmoins, il y a aussi un problème. C'est que si les régimes cubains s'écroulent, on va voir la même problématique qui a lieu aujourd'hui au Venezuela. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un flux massif, un exode de Cubains allant aux États-Unis et donc créer un problème migratoire aux frontières des États-Unis. Or, c'est exactement ce que ne souhaite pas le régime américain, et c'est la raison pour laquelle Delcy Rodríguez est aujourd'hui la présidente du Venezuela.
Est-ce que, et c'est intéressant ce que vous dites, est-ce que ça veut dire que parce que le pétrole c'est une chose, c'est évidemment très important, on verra dans un instant si le Mexique s'est compensé ou pas, ce qu'il y a dans l'échange, ce sont aussi des médecins, ce sont des infirmières cubaines qui sont là-bas, mais ça veut dire autant de revenus pour l'île aussi. Est-ce que du jour au lendemain, de toute façon, ces gens peuvent être quoi? Renvoyés d'office par une grosse pression américaine, puisque c'est Dulce Rodriguez qui est là, elle aurait intérêt à les garder. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens qui sont au fond des civils cubains en fait au Venezuela?
Oui, et qui sont une source de revenus. Et je pense que c'est très important de le souligner, puisque durant en fait une bonne vingtaine d'années, et notamment à la suite de cet accord qui était noué avec Chavez, lorsque les missions ont été créées par Hugo Chavez, qui avait le soutien justement de ces médecins cubains, qui apportaient des services dans des zones rurales, dans des territoires défavorisés, eh bien, Cuba a réussi à recréer une nouvelle sorte de diplomatie, la diplomatie sanitaire, qui non seulement permettait à cette île de projeter son influence au-delà de ses frontières, au Venezuela, mais aussi au Mexique, au Brésil, y compris en Italie, à certains moments, et une source de revenus de dollars.
Et on comprend bien, en vous écoutant, Gaspard Estrada, jusqu'à quel point Trump, finalement, derrière les mots, n'a pas tout à fait intérêt que tout s'écroule, aussi bien au Venezuela, finalement, qu'à Cuba, d'ailleurs, quoi qu'en dise son ministre des Affaires étrangères.
Bien sûr, parce que, sur le plan géographique, Cuba est vraiment tout proche, et à 150 km des côtes de Floride. Or, si l'on se passe dans un contexte de politique intérieure américaine, la priorité, c'est les mid-terms, les élections législatives en novembre, avec des sondages assez mauvais pour Donald Trump, il faut le reconnaître. Donc de ce point de vue-là, s'il y a une nouvelle crise migratoire en Floride, ça peut créer une crise politique interne aux États-Unis, et je ne pense pas que ce soit fondamentalement l'intérêt de Donald Trump.
Alors, cependant, pour que Cuba ne s'écroule pas, déjà que c'est un pays, quand même, on va le rappeler, des coupures d'électricité tout le temps et constamment, et ça ne date vraiment pas d'hier, une population qui est quasiment intégralement sous le seuil de pauvreté, des difficultés qui sont énormes, un manque de devises, etc. Donc, si en plus, il n'y a plus le pétrole, là, pour le coup, Rubio a peut-être raison, Cuba peut s'écrouler tout seul. Est-ce que le Mexique compense avec son pétrole ? Est-ce que au moins, il y a ça ou pas ?
Alors, oui, dans le sens où, si l'on se place dans un temps un peu plus long, c'est-à-dire les 10 dernières années, le Venezuela exportait environ 100 000 barils de pétrole il y a 10 ans. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, avec des difficultés, le Venezuela exporte une dizaine de milliers de barils par jour. Le Mexique, ces trois dernières années, et notamment entre 2024 et 2025, le début de l'année 2025, a multiplié ses exportations. Et selon le Financial Times, qui a publié des statistiques hier, puisque on a beaucoup de mal avec les statistiques concernant l'envoi, parce que c'est des données assez opaques, selon le Financial Times, le Mexique aurait surpassé le Venezuela et est devenu le principal exportateur de brut. La question, c'est que le Mexique subit aussi des pressions politiques de la part de Washington. Il y a eu des voyages de Marco Rubio à Mexico, à la suite de laquelle ses envois de pétrole ont été diminués. Et on ne peut pas exclure qu'à l'avenir, le Mexique cesse aussi ses exportations.
Est-ce qu'on sait ce qu'ils disent, les Cubains, et ce qu'il se passe à Cuba aussi ? Est-ce qu'il y a des discours qui peuvent dire qu'on en finisse, que les Américains débarquent et qu'on ferme cette page-là? Est-ce qu'au contraire, il y a un discours qui tient autour des leaders en disant « Attends, on ne va pas laisser les Américains s'occuper de nous ». Est-ce qu'on sait ce qui se passe là-bas?
On a beaucoup de mal à savoir vraiment ce qui se passe au cœur du pouvoir cubain, qui est quand même un pouvoir hermétique et qui vit en autarcie depuis 60 ans. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est qu'il y a au sein de la société civile cubaine un ras-le-bol par rapport à cette situation, mais aussi une forme de résilience, puisque malgré...
Ça fait 60 ans qu'ils tiennent le coup, on se demande même comment, en quelque sorte. Mais est-ce qu'il y a des rumeurs au moins, ou des informations de colère, de ras-le-bol, de manifestations d'impatience de la part des Cubains, ou est-ce qu'on ne saura pas ça, en fait, avant que quelque chose explose?
Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que les voyants sont rouges.
Ouais.
Le problème, c'est de pouvoir qualifier la gravité de la situation. En effet, la situation est extrêmement difficile, elle est à certains points de vue critique pour les Cubains. Néanmoins, les Cubains ont réussi à aller outre des situations extrêmement graves, notamment lors de la chute de l'URSS, notamment, que, voilà, on ne peut pas exclure que, in fine, par exemple, le régime, s'il voit bien une pression sociale émerger, eh bien, ouvrir les vannes et permettre à ces Cubains de quitter le territoire, comme ça d'ailleurs était le cas dans les années 90, et de provoquer ce flux migratoire, justement, pour faire pression sur Washington, pour éviter la chute du régime.
Les revenus de Cuba aujourd'hui, Gaspard Estrada, c'est quoi en fait ? À part l'argent, alors l'argent qui vient du Venezuela, ça on l'a bien compris, l'argent qui vient des exilés, oui sûrement aussi beaucoup, et quoi d'autre en fait ?
Il y avait le tourisme, mais le tourisme malheureusement s'est effondré. Il y a aussi de l'agriculture où il y aurait une certaine marge de manœuvre, mais qui est très limitée en fait par le manque de mécanisation et de productivité du secteur agricole. Et il y a certaines activités traditionnelles, notamment la canne à sucre, même si elle a aussi été limitée, l'exportation de rhum avec une coentreprise française, je ne vais pas citer le nom, mais qui est connue amplement, et certains produits de niche, comme les cigares, mais malheureusement, ça ne fait pas la balance de paiement d'un pays. Et c'est pour ça que Cuba vit superfusion depuis déjà de nombreuses années.
La dernière fois que les Cubains sont révoltés, sont sortis dans la rue, c'était en 2021. Ça paraît très loin, en fait. Est-ce que la raison pour laquelle ils ne le font pas, de toute façon, c'est qu'à la fin, on est épuisé quand on vit dans cette situation-là? Et encore une fois, donc, avec une espèce de presque d'impatience en disant qu'il se passe quelque chose, au moins dans notre pays, ça fera bouger des choses et peut-être qu'on vivra mieux derrière.
Alors, oui, en effet. Mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est d'une part, ce sentiment de résignation qui a pu exister et aussi cette forme de résilience. Mais je pense qu'il est clair que ce qui s'est passé au Venezuela aura des conséquences pour Cuba, puisqu'on voit bien que pour Marco Rubio, la chute ou le changement du régime cubain, c'est quand même un marqueur politique qui est personnellement important dans sa carrière politique. Et nous sommes qu'à la fin de la première année du mandat de Donald Trump.
Ça veut dire que selon vous, un Marco Rubio, ça n'attend pas que le régime tombe tout seul, si d'aventure il tombait tout seul, à un moment on le pousse pour tomber, c'est ça que ça veut dire?
Absolument. Néanmoins, le président des États-Unis, c'est Donald Trump, et le président Donald Trump a des intérêts de politique intérieure. Et de ce point de vue-là, s'il y a une crise migratoire en Floride, je ne pense pas que ce soit bien vu par les électeurs du président républicain.
Mais le pousser pour tomber, d'ailleurs, ça pourrait ressembler à quoi? On n'imagine pas quand même qu'on envoie des soldats à Cuba, ça n'aurait aucun sens. Mais en même temps, je vous dis ça, allez savoir. Mais à quoi ça peut ressembler si on pousse un peu plus le régime pour essayer de le faire tomber?
Bon, je pense qu'il y a d'abord couper les vivres, c'est ce qu'on a évoqué.
On y est presque, ouais.
Mais je pourrais aussi fomenter des dissidences au sein de...
J'allais vous poser la question s'il y avait déjà de l'entrisme américain ou pas.
Ça, c'est quand même, je pense que c'est difficile, parce que s'ils ont échoué à faire tomber Fidel Castro malgré diverses tentatives de coup d'État, mais on ne peut pas exclure qu'aujourd'hui, le gouvernement américain tente de fomenter ses dissidences. Néanmoins, je pense qu'il y a un facteur très important qu'il faut mentionner, c'est que contrairement au Venezuela, il n'y a pas de pétrole au Cuba.
Bien sûr.
Et il est très clair, et le président américain a été très explicite dans son souhait de s'accaparer des ressources, que ce soit au Venezuela, que ce soit au Groenland. Donc de ce point de vue-là, le fait qu'il n'y ait pas de ressources à Cuba peut être un facteur très désincitatif de ses ambitions de changement de régime à Washington.
On comprend qu'ils ont envie de planter un drapeau, en fait, pas d'aller chercher des ressources, mais effectivement, simplement de planter un drapeau. Donc planter un drapeau, ça veut dire un régime qui tombe, et finalement, peu importe ce qui se passe derrière, en vous écoutant, j'ai l'impression que ça suffit à Marco Rubio, au fond.
Ça suffit à Marco Rubio, oui, le jour D, mais le problème, c'est qu'est-ce qui se passe après. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de voir aujourd'hui au Venezuela.
Écoutez, on verra ce jour-là et on sera ravis de vous avoir à nouveau chez nous. Mais t'as vu que cette histoire n'est pas terminée, Gaspard Estrada, je vous remercie beaucoup de votre passage chez nous.
Merci à vous.
La suite, c'est Le Monde à l'endroit, et c'est vous, Frédéric Seyss.
Quelle doctrine internationale pour Emmanuel Macron? Il réunissait cet après-midi les ambassadeurs français à l'Elysée.
Juste après ça.
De Bar Italia, fundraiser dans la playlist de France Inter. Le monde à l'endroit, c'est Frédéric Seyss.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Question simple, Frédéric, quelle boussole internationale pour Emmanuel Macron ?
Oui, comme chaque année, le chef de l'État s'est exprimé devant les ambassadeurs de France, réunis tout à l'heure à l'Élysée. Alors à première vue, l'exercice semble convenu, classique, presque lisse. Les ambassadeurs écoutent et applaudissent. Le président disserte et digresse sur les grands bouleversements du monde. Mais à y regarder de plus près, ces allocutions en forme de passage obligé sont plus riches qu'il n'y paraît. Surtout si on les compare d'une année sur l'autre, ces discours. On perçoit alors des évolutions, des inflexions, des constantes aussi. Elles racontent le contexte changeant et la doctrine de l'Élysée, elle aussi parfois mouvante.
Alors par exemple, sur la place du droit international.
Oui, droit international que n'a pas évoqué Emmanuel Macron dans sa première réaction après l'enlèvement de Nicolas Maduro par les États-Unis, ce qui a choqué en France et en Europe. Eh bien cet après-midi, entre les lignes, le chef de l'État s'en est justifié. L'Europe, dit-il, ne doit pas se contenter de la morale, dire ce qui est bon. Cela, c'est le choix de l'impuissance, estime Emmanuel Macron. Le danger pour lui, c'est que l'Europe se borne à un rôle de commentateur, je cite, commentateur qui continue de rappeler des règles du jeu que d'autres n'appliquent plus. Un tournant assumé de réalpolitik, aurait-on dit en d'autres temps, voilà qui contraste avec les mots du début de la présidence d'Emmanuel Macron, juin 2017. La démocratie ne se fait pas depuis l'extérieur, à l'insu des peuples, disait-il. Avec moi, ce sera donc la fin d'un certain néoconservatisme. C'était il y a plus de 8 ans.
Dans la doctrine d'Emmanuel Macron, Frédéric, au fil des années, il y a aussi une constante sur la défense européenne.
Oui, pour le coup, dès 2017, Emmanuel Macron annonce devant les ambassadeurs une augmentation du budget de l'armée. À l'époque, ça n'est pas franchement à la mode. L'année suivante, il plaide pour une défense européenne avec cette phrase plutôt visionnaire a posteriori. Pour sa sécurité, l'Europe ne peut plus s'en remettre aux seuls États-Unis. C'était donc en 2018, phrase tragiquement illustrée ces jours-ci par les déclarations de Washington à propos du Groenland. En 2018, Emmanuel Macron lance aussi une coopération avec l'Allemagne sur les futurs avions et chars de combat. Il emploie l'expression « souveraineté » européenne qui, à l'époque, donne des boutons à bon nombre de nos voisins, notamment les pays de l'Est et les pays nordiques en Europe, très attachés aux liens transatlantiques avec cette idée que les États-Unis resteront toujours un allié sûr et infaillible. Sur ce point, la boussole d'Emmanuel Macron est restée constante et la suite lui a plutôt donné raison.
En revanche, sur les rapports avec la Russie, la doctrine a beaucoup évolué.
Oui, si l'on relie le discours aux ambassadeurs de 2019, donc bien avant la guerre en Ukraine, c'est vraiment une invitation à tendre la main à Moscou. Je cite « Pacifions nos relations avec la Russie. La pousser loin de l'Europe, la Russie, c'est une profonde erreur stratégique. » Une semaine plus tôt, toujours en 2019, Emmanuel Macron avait reçu Vladimir Poutine dans sa résidence du fort de Brégançon. En 2022, quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine, le président se rend à Moscou. On se souvient de la si longue table qui le séparait de Vladimir Poutine. Et même après le début de la guerre, il appellera, je cite, à ne pas humilier la Russie. Le tournant est venu un an plus tard, en 2023. Emmanuel Macron durcit le ton, se place aux avant-postes du soutien à l'Ukraine. Pragmatique, diront ses soutiens. Versatile, répondront ses opposants.
Frédéric Seyss, merci beaucoup. Le reportage.
Follow.
Le reportage d'un jour dans le monde, c'est un jour à la Cannes. Ce soir, la Coupe d'Afrique des Nations, événement plus que suivi et chéri dans toute l'Afrique, qui aime le foot et pas seulement, vous allez voir. Les quarts de finale débutent demain et dans les tribunes, des milliers de Français, binationaux ou pas, qui voient surtout dans cette compétition une manière d'entretenir le lien avec le pays d'origine de leurs parents. Les Français, c'est de loin la nationalité non africaine la plus représentée parmi les spectateurs, au moins 110 000 qui ont assisté jusque-là aux matchs et aux compétitions. Nous allons donc de Casablanca jusqu'à Tanger, et le reste, c'est François Umfer Kataji qui raconte.
Accueilli par un groupe de musique marocain traditionnel, Bourema, franco-sénégalais, déambule tout sourire dans la fan zone du phare de Casablanca, malgré la pluie. Pour lui, il était important de venir au Maroc avec ses enfants pour supporter les lions de la Teranga du Sénégal. Il enchaîne les selfies et les vidéos avec Assad, la mascotte de cette compétition qui représente un lion aux yeux doux.
Moi, c'est la première fois que j'amène mes enfants au Maroc. La mascotte qui fait partie d'un ensemble représentatif aujourd'hui de cette CAN que je trouve super réussie déjà. Dès le début, je ne pourrais pas me prononcer. Certains s'aventurent à dire que c'est la meilleure CAN et compagnie. Bon, mais moi, pour moi, voilà, je suis plutôt très content de l'ensemble de l'accueil et de mascotte et tout ce qui a été mis en place.
Profitant de la proximité du Maroc avec l'Hexagone et d'un pays dans lequel il est facile de voyager pour des prix abordables, les supporters français dans les tribunes de cette CAN étaient partout.
Moi, je suis venu de Lyon, France.
Moi, c'est Jessica, je vis sur Paris et je suis venu pour supporter les léopards.
Moi, j'habite en France, je suis franco-malien et fier d'être malien et moi, je suis confiant.
Je suis Elage depuis Paris, donc je suis là aujourd'hui à Tanger pour supporter mon équipe, le Sénégal.
Elage, franco-sénégalais, a voyagé seul dans les travées du match Sénégal-RDC. Il porte le drapeau du Sénégal sur les épaules.
Ouais, c'était très important parce que ça réveille cette partie de patriote en moi. Donc très normal, d'autant plus que je suis en vacances. Donc encore beaucoup plus évident de venir soutenir mon équipe.
Enfant de parents originaires d'Afrique ou immigré en France depuis de longues années, il n'est pas rare de croiser des supporters envahis par la ferveur, la passion et la joie de soutenir leur pays. C'est le cas de Moussa, qui harangue la foule dans les tribunes du stade Mohamed V de Casablanca.
C'est ce qui nous met en connexion. De toute façon, je n'ai jamais quitté mon pays. La connexion est toujours restée. Et ces événements sont des événements qui nous donnent l'occasion de prouver davantage qu'on est du Mali, qu'on aime le Mali, qu'on est malien dans le sang. Et ça, il n'y a que des événements comme ça qu'on peut le prouver au monde entier. Et je suis là pour ça.
Bien placé pour observer ce phénomène où la nostalgie prend une place importante chez les immigrés ou enfants d'immigrés.
Moi, je m'appelle Aboubakar, je suis journaliste et j'ai 25 ans, je viens de Paris.
Le rédacteur en chef de la web radio Mon Paris FM, d'origine malienne, suit avec attention le match Tunisie-Mali depuis la tribune de presse.
Oui, il y a une effervescence. D'ailleurs, nous, à Paris, les matchs ils sont diffusés. Il y a les jeunes du quartier qui peuvent venir les regarder au sein du média. Donc effectivement, il y a une effervescence. J'ai vu pas mal d'amis venir, beaucoup plus qu'en Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance de couvrir aussi la compétition en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que là, le fait que le Maroc soit proche en plus de la France, ça fait qu'il y a pas mal de gens qui sont venus et qui sont encore présents ici pour suivre le reste de la compétition. C'est totalement une manière de reconnecter avec ses racines. Ça permet aussi de voir évoluer des joueurs de son origine, des joueurs qui sont parfois aussi nés en France, qui ont grandi en France, donc à travers lesquels on peut se reconnaître et c'est ce qui fait tout le charme de la CAN.
S'identifier autant que renouer avec ses racines africaines. En effet, selon les statistiques élaborées par le site spécialisé Foot Mercato, pas moins de 107 joueurs de la CAN sont nés en France et 45 en Île-de-France. C'est un joueur sur 6 de la compétition africaine. L'exemple le plus frappant de ce lien entre la France et la CAN réside peut-être dans la présence à tous les matchs de l'Algérie de l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France, Zinedine Zidane, icône du football français. Il observe son fils Lucas, portier de l'équipe d'Algérie, qui a décidé d'évoluer pour le pays natal de ses grands-parents.
François Umfer Kataji pour le reportage. Merci beaucoup. Pour info, les quarts de finale, je vous les donne ou pas? Allez, Mali-Sénégal, Cameroun-Maroc, et puis ensuite Algérie-Nigeria et Égypte-Côte d'Ivoire. La suite, c'est Sous les radars, et ça se passe avec vous, Guillaume Audin.
Sous les radars en Inde, où défendre le climat relève presque du crime d'État.
Et la tech la première chaque jeudi, Stéphane Jourdain.
IA ou pas IA, les services photos des grands médias ont eu très mal à la tête samedi dernier en découvrant la photo de Maduro postée par Trump.
Allez, la suite de l'émission passe par le Kent en Angleterre, c'est là qu'a grandi Nitin Shoni avec sa famille indienne. Royal Sunbird, c'est le titre et c'est le choix de Joubaka. Chenille sur France Inter. Royal Sunbird, c'est le titre de la chanson. Sous les radars, il se passe plein de choses dans l'actualité internationale et Guillaume Audat le sait.
Hiện vẫn chưa rõ ông Trần Chí bị trục xuất vào thời điểm nào cũng như các cáo buộc cụ thể mà ông phải đối mặt.
On ignore encore Guillaume où il se trouve, c'est ce que nous dit la télé vietnamienne. Et quand il a été extradé, le Cambodge a livré à la Chine le roi de l'arnaque aux cryptos.
Nom de code, Vincent. C'est une affaire qui passionne l'Asie et bien au-delà, car Washington et Londres s'en sont également mêlés. Vincent ou Chen Zi était en fuite à un Chinois muni d'un passeport cambodgien à la tête d'une organisation cybermafieuse spécialisée dans l'arnaque à grande échelle. Pour être sûr de dépouiller vos comptes en banque via des applis et toutes sortes de pièges numériques, Chen Zi faisait frapper, matraquer et humilier ses 15 à 20 000 employés exploités dans des entrepôts obscurs. Leur mission à ces individus, vous inciter à investir des sommes folles en crypto-monnaie, faux profils, fausses romances, faux conseils financiers. On appelle ça du pig butchering grâce à cette technique et à sa cruauté. Chen Zi aura accumulé des dizaines de milliards de dollars. Il contrôlait 146 entités, un empire immobilier, une banque, des casinos, avant de se faire coffrer au Cambodge et d'être livré à Pékin pour être jugé fin ou alors révélation d'un système aux confins de l'esclavage moderne et de l'escroquerie massive.
What the government is doing is managing or manipulating its perception or image in that sense. People are gasping for breath.
À New Delhi, ce que nous dit ce manifestant Guillaume, c'est qu'en Inde, la lutte pour l'environnement est devenue une activité suspecte aux yeux du gouvernement.
À tel point que depuis quelques semaines, en effet, les descentes de police se multiplient dans les ONG pro-climat. Les autorités harcèlent désormais tout ce que compte l'Inde de militants écologistes trop visibles. Illustration hier, et ça a fait beaucoup de bruit à Delhi, avec un raid de la police au domicile de l'un des activistes les plus en vue du pays. Il s'appelle Sarjit Singh. Il est à la tête de Satat Sampada. Ça veut dire la nature pour toujours. Et c'est précisément ce qui irrite au plus haut niveau. Le gouvernement martèle que les défenseurs de l'environnement nuisent à l'essor économique, mais pire serait au service d'intérêts étrangers. En clair, s'opposer au charbon massivement utilisé, défendre la fin des énergies fossiles, s'apparenterait sous Narendra Modi à trahir sa patrie. Parmi les 10 villes les plus populées du monde, les plus polluées du monde, 9 sont indiennes. Donc oui, les autorités s'étranglent parce que leurs choix sont contestés, mais en attendant, la population étouffe.
It's a very, very corroded lump of metal, but we've actually got here is the
un casque roman découvert dans des ruines en Grande-Bretagne. Ça paraît fou, dit comme ça, mais Rome avait une usine d'armement secrète en Angleterre.
Et cette fois-ci, c'est Sunderland, une ville au nord-est du Royaume-Uni qui devient l'un des épicentres de l'archéologie mondiale. Près de 800 pierres à aiguiser, des restes d'armes et d'outils de toutes sortes ont été excavés. Il y avait là une véritable usine militaire de l'Empire romain, très probablement sous le règne d'Adrien, comme les mémoires d'Adrien, le roman de Marguerite Yourcenar, que vous avez évidemment lu.
Bien sûr.
Donc Adrien, empereur romain au IIe siècle.
Avec un H.
Adrien,
voilà.
Empereur romain au IIe siècle après Jésus-Christ, il y a presque 2000 ans, avait choisi les côtes de l'Angleterre pour structurer son économie de guerre. C'était une façon pour Rome, à travers vents et mers, d'étendre et de tenir ses frontières. Ce que démontre cette découverte majeure, c'est que la Bretagne et que son extension, la Grande-Bretagne, n'avait rien d'une périphérie. C'était une province stratégique, sans quoi aucune arme à cette échelle n'y aurait été forgée. Stratégique, vous m'avez bien entendu, c'est peut-être pour cela, back to Brittany, qu'un petit village de Gaulois, celui d'Astérix, il y a fort longtemps, s'y est établi.
Guillaume Audat, merci beaucoup. Guillaume, à très vite. Le jeudi, c'est la chronique sur l'IA fabriquée sans IA et Stéphane Jourdain.
France Inter, le 18-20.
Et cette semaine, Stéphane, vous revenez sur l'image de la semaine.
Eh oui, Maduro, menotté en survêt Nike à bord d'un navire américain. Première photo du président vénézuélien postée par Donald Trump sur Truth Social. Tout a été dit, ou presque, sur cette photo. Le gilet de sauvetage bizarre, le survêtement gris que les gens s'arrachent, le casque anti-bruit vendu 12$. Mention spéciale quand même à El País, qui dans un papier sur cette fameuse photo, parvient à citer à la fois Guy Debord et Karl Lagerfeld. Guy Debord, évidemment, pour la Société du spectacle, et Karl Lagerfeld pour cette citation tirée à quatre épingles qui va vous plaire, Fabienne.
Allez-y.
Les pantalons de jogging sont un signe de défaite. Quand vous sortez en jogging, c'est que vous avez perdu le contrôle de votre vie.
Tellement d'accord avec Karl Lagerfeld. J'espère qu'il y a des gens qui écoutent. Cette photo a été publiée par Donald Trump samedi à 16h GMT, très exactement, Stéphane, donc 10h tout juste après le début des bombardements américains à Caracas.
Et ce qu'on n'a pas beaucoup dit, c'est qu'elle a donné du fil à retordre au service photo des grands médias occidentaux. Embarras dont témoigne Stéphane Arnaud, rédacteur en chef de la photo à l'AFP.
Nous, notre attitude quand la photo est tombée, ça a été exactement la même qu'au New York Times. C'est-à-dire, on s'est dit, waouh, merde, compte tenu des antécédents de Trump, et pas que de lui, d'ailleurs, la Maison-Blanche, parce que maintenant, même la Maison-Blanche poste des trucs faits avec de l'IA. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Beaucoup de doutes.
Trump a l'habitude de publier des fausses images générées par l'IA, et la photo elle-même est étrange. C'est ce qu'écrit la directrice de la photo du New York Times, Megan Loram, dans un making-of publié par Le Quotidien. Son cadrage est inhabituel, sa qualité est médiocre, et un pli apparent suggère qu'il s'agit d'une photo d'un tirage papier. Cette photo est-elle authentique ? C'est la question qui agite alors le New York Times, comme l'AFP, samedi. Les deux médias vont alors soumettre la photo à leur détecteur d'IA. Mais ça ne va pas beaucoup les aider.
Nous aussi, on l'a passé dans AI or Not, qui est le même outil que New York Times utilisait. Et c'est vrai qu'en plus, selon les utilisateurs qui l'ont fait, si tu veux, tu as des résultats qui divergent. Tu n'as pas de consensus avec ces outils-là. Et en plus, ces outils-là, quand tu leur fournis un truc qui n'est qu'une capture d'écran, tu ne leur donnes pas un fichier, en fait. Tu leur donnes une capture d'écran que tu as faite toi-même d'une photo qui circule sur les réseaux sociaux, sur le compte de, en l'occurrence, Donald Trump. Donc, si tu veux, la part scientifique de fiabilité, elle est quand même très faible compte tenu du fait que tu donnes même pas un fichier, tu donnes une capture d'écran.
Pour le logiciel du New York Times, le risque que cette photo soit de l'IA est même de 52%. Les deux médias décident finalement de publier une capture d'écran du poste de Donald Trump sur Truth Social.
Au-delà de la question de savoir si la photo est vraie ou pas, on a estimé que le poste lui-même sur Truth Social était une info qui justifiait la reproduction du poste de Trump.
Dans sa légende, l'AFP prend des méga pincettes. Cette photo, je cite, « montre ce que le président Trump présente comme le président vénézuélien Maduro. Vous ne ferez pas plus factuel. »
Mais alors au final, est-ce que cette photo a été générée par une IA ou pas ?
Alors depuis, on sait que Maduro a bien été enlevé par les Américains et on l'a vu à la télévision, il est bien vivant, ce qui rend la photo d'autant plus crédible. Check News a quand même enquêté. Est-ce qu'un détail de la photo trahirait l'usage d'une IA ? Verdict, le gilet de sauvetage correspond bien à un modèle utilisé par l'armée américaine, le casque anti-bruit existe bien et le fond noir perforé de la cabine est visible dans les cabines de pilotage de plusieurs navires de guerre américains. Cette photo est donc très probablement véridique, même si Stéphane Arnaud rappelle qu'une IA aurait pu reproduire tous ces détails.
Quand je vois que certains ont même poussé l'analyse jusqu'à savoir si sa tenue, son gilet de sauvetage, son casque, c'était des vrais trucs. Ouais, très bien. N'empêche qu'avec un prompt IA, tu peux aussi lui faire faire ça à l'IA.
Donc on a changé d'ère, Stéphane.
Oui, une ère où les détecteurs d'IA ne fonctionnent pas, une ère où les médias occidentaux ne considèrent plus la Maison-Blanche comme une source fiable.
À l'époque d'Obama, même s'il n'y avait pas l'intelligence artificielle, ces deepfakes, etc., etc., c'est vrai que la Maison-Blanche restait une source fiable, considérée comme fiable, avec un photographe en plus, Pete Souza, qui était aussi, lui, considéré comme fiable.
Et aujourd'hui, comment l'AFP considère la Maison-Blanche en termes de sources ?
Alors, moi, je te parle de la photo. Hein. On est désormais dans le cas de figure de Maduro du week-end dernier. On ne peut pas être serein avec ces images-là.
Mais pour l'agence spécialisée dans la désinformation NewsGuard, ce changement d'époque est bien plus récent. Sophia Rubinson.
Il y a un an, quand Biden était encore à la Maison-Blanche, sur les images IA, vous auriez eu un doigt en trop ou des textes bizarres en arrière-plan. En fait, c'est la première présidence pour laquelle ces questions se posent, avec des images IA si réalistes qu'il est impossible de distinguer le vrai du faux à l'œil nu. Et ça, c'est un problème sans précédent pour toutes les rédactions. C'est une époque vraiment inquiétante.
NewsGuard a enquêté sur les nombreuses fausses photos IA de Maduro qui ont fait des millions de vues avant la publication de la photo de Trump. Et certains de ces clichés présentaient un risque d'IA plus faible que le cliché de Trump.
Alors une dernière chose quand même, Stéphane, tout ça n'a pas commencé avec les événements de ce week-end.
Et pour beaucoup, c'est une autre photo qui nous a fait basculer dans cette nouvelle époque. La photo largement retouchée par l'IA de la famille de Kate Middleton, c'était en mars 2024. Peu de choses ont changé depuis, mais certaines prédictions des chercheurs en IA les plus optimistes ont très mal vieilli, comme celle-ci de Yann Lequin à notre micro en 2023.
Vous voulez détecter si quelque chose, une pièce d'information est fausse. En fait, l'intelligence artificielle n'est pas le problème là. L'intelligence artificielle, en fait, c'est la solution.
Ce n'est pas le problème, c'est la solution. À voir, pour l'instant, c'est bien lié à le problème.
Voilà, et le jogging aussi. Stéphane, merci beaucoup. À jeudi prochain.